les traductions du Hiro, par exemple, qui flottent. Vous verrez tout à l'heure, lorsqu'on fera l'interprétation sur l'identité et le temps, vous verrez qu'il y a une faute de traduction absolument colossale. Bref, je passe et j'en viens au problème de l'organisation du récit. Après cette réflexion sur la textualité, concluons pour dire que la traduction que je propose, page 2, c'est une traduction de travail qui bougera sûrement encore lorsque je retrouverai encore des nuances. Je n'ai pas vu, mais j'ai quand même commencé à travailler avec beaucoup de spécialistes de l'espagnol et je pense qu'on arrive à une traduction qui devient de plus en plus fiable. Alors j'en viens à ce qui vous intéresse peut-être plus dans le cadre de ce séminaire, c'est-à-dire l'analyse de la narrativité, mais pour arriver à l'analyse de la narrativité, je suis obligé d'enchaîner sur ce que je viens d'expliquer de cette rythmicité particulière de la langue et de la phrase chez Borges, et je vais donc travailler un moment avec vous sur les phrases périodiques, ce que je vais appeler la phrase périodique. Selon la vieille définition classique, je travaille sur du texte écrit, donc je garde un concept de période qui est initié par la grammaire, avant la grammaticalisation, enfin par la grammaire, par les stylisticiens et rhétoriciens. Vous savez que la langue ne devient un concept opératoire qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec une grammaticalisation progressive de la période, mais les écrivains ont écrit par période et pas par phrase pendant des siècles. La phrase a une existence très récente et justement la structure périodique du discours qui intègre la rythmicité à sa structuration est un aspect extrêmement important, en particulier de cette langue de Borges. Alors, juste à titre indicatif, je vous ai décomposé la dernière phrase car il s'agit bien d'une seule phrase avec un point virgule juste avant le « yo » qui est un intensif, ça aussi, « yo quería saber hein, », je voudrais savoir », le « yo » en espagnol, le « je » n'est pas obligatoire, il suffit d'avoir le verbe, mais on a le pronom personnel sujet, « je », sans avoir besoin de l'énoncer. Quand on l'énonce en espagnol, c'est une forme intensive, c'est littéralement « c'est moi je » dans ce « yo ». Ça, Kaiwan ne traduit jamais « moi je », parce qu'en français, c'est pas beau, je suppose, « moi je ». Mais en espagnol, c'est une forme d'insistance. Et « moi je voudrais savoir », c'est une forme qui insiste sur la distinction entre moi et les autres. Donc le « yo », là, je traduis « moi je voudrais savoir » avec conscience. Cette forme d'insistance est nécessaire. Alors, si vous prenez cette longue phrase, vous voyez qu'elle est rythmée de façon binaire, de façon assez systématique. Moi, je voudrais savoir ce qu'il ressentit en cet instant de vertige, le passé et le présent se confondirent. Moi, je voudrais savoir si le fils perdu renaquit et mourut en cette extase, ou s'il parvint à reconnaître, ne fût-ce qu'à la manière d'un nouveau-né ou d'un chien, les parents de la maison. Et vous avez vu toutes les séries binaires, de type passé, présent, renaquit et mourut, les parents et la maison, le « ou » d'un nouveau-né ou d'un chien, si le fils perdu, ou si, par la suite, vous avez aussi le « en cet instant » et « en cette extase », là aussi il faut faire attention, si on veut bien garder ce parallélisme, il faut le traduire au plus près, « en cet instant de vertige, en cette extase », tout est en série comme ça, binaire, qui crée une rythmicité, sans parler, bien sûr, des aspects phoniques de la langue, mais on n'a pas besoin des aspects phoniques, il y a déjà là énormément d'éléments binaires en structure rythmique. Ça, c'est un exemple de phrase périodique dans sa rythmicité interne qui fait que le texte est relancé, la phrase est relancée et s'achève au terme d'un long, long parcours qui est le long énoncé de cette dernière phrase, 12, du texte qui a un rôle particulier, on peut le considérer comme une évaluation finale morale de ce récit. On reviendra dessus dans le détail. Et je voudrais attirer votre attention sur un autre exemple de phrase périodique. C'est toujours dans le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe a des caractéristiques qu'à mon avis le premier n'a pas. C'est la phrase précédente, la phrase 11 du premier paragraphe. Je l'ai décomposée page 5 et elle va nous introduire dans quelque chose qui correspond à ce que je disais tout à l'heure sur la caractérisation prototypique du segment. La phrase 11, telle que je la traduis, « Ce souvenir fut peut-être suivi par d'autres, mais l'Indien ne pouvait vivre entre quatre murs. » Et un jour, il partit retrouver son désert. Alors ça, c'est un autre aspect des phrases périodiques. C'est moins la structure rythmique qui la détermine, mais une structure avec des connecteurs. Ici, on a « mais », et un jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux connecteurs à caractérisation différente. Le mais tire du point de vue de la connexion vers l'argumentation, et le et un jour tire vers la narration de façon systématique. C'est un organisateur narratif typique. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a là deux organisateurs, l'un, le grand prototype même des connecteurs argumentatifs, le mais, et puis par ailleurs ce et un jour qui enclenche, qui articule les choses autrement. Et il me semble justement que cette articulation des trois propositions est en flottement dans sa détermination. C'est-à-dire que c'est à la fois narratif et argumentatif. C'est narratif, et on a en quelque sorte une séquence narrative avortée. Et dans cette séquence avortée, vous avez une situation initiale du récit qui redémarre. Ce souvenir fut peut-être suivi par d'autres. Alors, avec ça, l'histoire pourrait continuer, enfin, en quelque sorte en suspension. Mais l'Indien ne pouvait vivre entre quatre murs. Et là, on a un élément typique de construction d'intrigue avec un nœud. Mais l'Indien ne pouvait vivre entre quatre murs. C'est un nœud au sens narratif typique, c'est-à-dire que cet élément introduit une bifurcation. Maintenant, ne pouvant vivre, est-ce qu'il va néanmoins vivre ou est-ce qu'il va partir? Donc avec chaque fois, des choix binaires, narratifs, typiques, des enchaînements narratifs, le récit bifurque, possiblement autour de ce nœud. Et puis en fait, on a un dénouement, c'est-à-dire que la structure narrative est compacte, et en quelque sorte rudimentaire. On a un nœud et dénouement aussitôt, et un jour il partit retrouver son désert. Donc on a un micro-récit bloqué comme ça en trois propositions successives, avec une situation de départ, un nœud, un dénouement, un récit, encore une fois, vraiment rudimentaire, compacté. Mais vous pouvez aussi lire cet enchaînement sous un angle argumentatif. C'est-à-dire que ce souvenir fut peut-être suivi par d'autres, une fois qu'on a lu tout ce qui précède, est une proposition qui, avant mai, fait qu'on est tenté de tirer de cette proposition 11A, ce souvenir fut peut-être suivi par d'autres, une conclusion, en quelque sorte en attente, et cette conclusion, pour pouvoir la construire sémantiquement, la dérivée de la proposition ce souvenir fut peut-être suivi par d'autres, il faut qu'on regarde ce qui suit. Mais l'Indien ne pouvait vivre entre quatre murs. Proposition Q, introduite comme un nouvel argument, en fait cet élément narratif, a une tendance d'argument, en fait, c'est en potentialité argumentative. Et la conclusion tirée de Q, c'est conclusion, ne pouvant vivre, il part. Il partit retrouver. Donc on a une conclusion non C, il part, qui inverse la conclusion implicité. Sous 11A, ce souvenir fut peut-être suivi par d'autres. Effectivement, si le souvenir est suivi par d'autres, au lieu de partir retrouver son désert, il reste et il retrouve son passé et tout le monde est heureux. Mais comme l'Indien ne peut pas vivre entre quatre murs, il s'en va. Donc on a une structure argumentative typique autour de ce mais. Et on a bien là quelque chose qui est articulé entre narration et argumentation et qui boucle l'histoire d'une façon extrêmement rapide et nous amène à cette morale qu'on a déjà survolée, dont on reparlera tout à l'heure. En quelques mots, la structure du récit est simple à établir, me semble-t-il. Enfin, simple à établir. Je veux dire, une construction de récit, c'est une interprétation. Hein. Donc, la façon dont je construis le sens, à partir d'un certain nombre d'indices textuels, est une proposition de construction de sens. Donc, Arunin Wattapalki, on raconte l'histoire suivante. Cette histoire est une entrée-préface typique, c'est l'entrée-préface de toutes les narrations orales. Je vais vous raconter une histoire, il faut que je vous en raconte une bien bonne. C'est ce qu'on a appelé les entrées-préfaces dans les définitions des récits oraux. Donc, on raconte cette histoire, c'est un introducteur. Le temps verbal, d'ailleurs, est un présent qui n'a pas d'ancrage précis, on ne sait pas trop où ça se situe, mais ce n'est pas le passé simple de l'histoire, c'est juste antérieur, c'est une entrée-préface typique. Un enfant disparu après un raid d'Indiens, on dit que les Indiens l'avaient enlevé, ses parents le cherchèrent inutilement. Alors, quand on a un récit qui commence par un enfant disparu, on a tendance à dire que c'est ça le nœud de l'histoire, et du coup à reconstituer une situation initiale, qui était une famille heureuse, et puis voilà. Mais je suis désolé, le récit ne dit pas ça. Le récit commence par un enfant disparu après un raid d'Indiens, on dit que les Indiens l'avaient enlevé, ses parents le cherchèrent inutilement. C'est-à-dire que ce qui me paraît intéressant, c'est que le texte propose, pas tout à fait, cette structure d'intrigue. Et donc j'essaie de le prendre au ras et de me précipiter sur le premier articulateur, le premier connecteur de récit, l'organisateur narratif, des années plus tard. des années plus tard, c'est un indicateur généralement justement fort de ce qui va être le démarrage de l'histoire. En fait, l'histoire démarre des années plus tard. D'accord ? Pour les parents, elle a démarré avant, l'enfant a été enlevé, etc. Mais c'est pas ça qui intéresse le narrateur. C'est pas ça le sujet de cette histoire. C'est pas un rapt d'enfant. Ce qui est intéressant, c'est des années plus tard, un soldat qui venait de l'intérieur leur parlait d'un Indien aux yeux d'azur qui pouvait bien être leur fils. En fait, c'est ça le problème que cette histoire, à mon avis, met en avant. Du moins, des années plus tard, est un organisateur qui tente à me faire interpréter l'histoire de cette manière. Et le nœud, je maintiens dans le nœud, ils le rencontrèrent enfin. Pourtant, pourrait être la suite, l'histoire a bien démarré. Je crois que le texte compacte ça. Ils le rencontrèrent enfin et ils crurent le reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas s'ils crurent le reconnaître, modalisent la reconnaissance, et fait que l'incertitude reste complète. C'est-à-dire que le nœud de l'histoire, dans cette proposition de structure que je suis en train de vous faire, c'est de considérer qu'en fait, la question, le texte porte sur l'identité de l'Indien aux yeux d'azur. Et est-ce que c'est le fils, ou est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est pas lui? En fait, je crois que c'est ça l'histoire. L'histoire porte là-dessus, sur cette identité, et le récit met l'insistance sur ce fait. À mon avis, la parenthèse tente aussi à être un indicateur du fait que je ne peux pas arrêter le nœud à cause de cette chronique qui ne précise pas les circonstances. Je ne veux pas inventer ce que je ne sais pas. Le texte, visiblement, dit « laisse tout ça dans l'ombre et enchaîne ». Ma proposition de structure, c'est de considérer cette question d'identité comme formant le nœud. Dès lors, l'histoire se poursuit par ce qui suit généralement le nœud, après ils crurent le reconnaître, qui encore une fois est une modélisation de reconnaissance, d'incertitude, la réaction qui constitue le centre du récit, l'homme marqué par le désert et la vie sauvage ne comprenait déjà plus les mots de sa langue natale, mais indifférent et docile, il se laissa conduire à la maison, s'arrêta sur le seuil, peut-être parce que les autres s'arrêtaient, regarda la porte comme s'il ne la comprenait pas. On est là dans une suite d'événements qui ramènent le personnage sur le lieu, mais ce qui a été noué n'est pas dénoué. Il est juste là, on ne sait pas s'il reconnaît, on n'en sait rien, il ne connaît pas la langue, et on ne sait même pas si la façon dont il regarde la porte peut être identifiée d'une façon précise. Je reparlerai un peu de ça tout à l'heure. Et le dénouement est marqué par un organisateur narratif très fort. Soudain, il baissa la tête, poussa un cri, traversa en courant, pénétra dans la cuisine, etc., etc. Sortit le petit couteau à manche de corne qu'il avait caché là lorsqu'il était enfant. Donc là, on a un dénouement qui, lui, dit, face à l'identité ignorée dans le nœud, dénouement, identité dévoilé. Donc le récit, dans cette structure-là, dans cette façon de considérer sa construction du sens, repose sur une opposition entre tant l'incertitude de l'identité et puis identité enfin rétablie. Et puis situation finale euphorique, ses yeux brillèrent de joie, ses parents pleurèrent parce qu'ils avaient retrouvé leur fils, pas de problème. Le récit s'achève momentanément sur cette situation finale euphorique rétablie. Donc on a une situation initiale dysphorique avec des parents qui n'ont plus leur fils qui a été rapté, si j'ose dire, et on a une situation finale euphorique avec tout le monde content et réuni. Puis entre deux, nœud dénouement qui sont incertitude de l'identité, certitude de l'identité, avec la reconnaissance, avec ce passage sur le souvenir dont il faudra dire un petit mot. Alors le plan, ce texte a dès lors une organisation qu'on peut planifier à partir du schéma qui suit. Je ne le commente pas plus, je reviendrai dessus s'il y a des questions tout à l'heure, je préfère enchaîner sur la question suivante, qui est celle de l'énonciation et les sources du savoir. Bien sûr, pour qu'il y ait récit, il faut que, dans tous les textes d'ailleurs, il faut que des propositions soient prises en charge par un énonciateur. Il n'y a pas d'énoncé sans énonciateur. Et lorsqu'on est dans une structure narrative, cet énonciateur a une particularité, narrateur. La grosse question donc du statut de vérité des propositions, c'est de savoir qui assume, qui est la source du savoir et qui assume la vérité des propositions. Donc ça nous mène à la question du point de vue tout simplement, que vous aborderez avec Rabatel, je crois, dans la séance suivante, c'est ça?
Oui.
Donc cette question du point de vue est justement bien et nécessaire, on ne peut pas travailler autrement. Aujourd'hui, dans la théorie par exemple de la polyphonie des Danois, on a tendance à considérer justement l'énonciateur comme étant l'énoncé d'un point de vue et point de vue successif, ce qui est assez utile pour le genre de texte sur lequel on travaille. Alors, ce texte présente, de ce point de vue, une problématique extrêmement intéressante. Et regardons de près cette question des sources du savoir et de la prise en charge des propositions. Le texte commence par un énoncé linguistiquement très, très, très clair. Ce « Harunin » ou « Atapalke », c'est une marque très, très précise. C'est un indicateur, de cadre. C'est ce qu'on appelle un cadratif. C'est un groupe adjoint périphérique typique, détaché en tête de phrase. « Harunin » ou « Atapalke », où on dirait à Rome, où on dirait à New York, à Washington. Et à ce moment-là, on désigne une source du savoir, une source du propos. C'est typique dans les énoncés journalistiques. Donc c'est exactement la même chose que te dire selon X, selon Monsieur X, dire par le lieu, métonymiquement, on désigne de la même manière la source du savoir, on la localise. Et en espagnol, ça pose absolument aucun problème. Harunin ou Atapalke, refieren, c'est pas besoin de sujet du verbe, c'est-à-dire que derrière le sujet du verbe, il y a ceux de Runin et de Tapalke, j'aurais pu traduire comme ça. Les gens de Runin ou Tapalke, ceux de Runin ou Tapalke racontent cette histoire. Donc on a une source du savoir qui n'est pas le narrateur. C'est les gens de Runin ou Tapalke, ceux qui habitent dans ces lieux, racontent une certaine histoire, l'histoire suivante. Donc du coup la source narrative, c'est eux, c'est ce « on », c'est de Runin et de Tapalke qui racontent une certaine histoire. Donc le narrateur ne la prend pas en charge. D'où la fameuse parenthèse. Ce que la chronique ne dit pas, moi je ne le rajoute pas, je vous raconte ce qui se raconte à Runin ou à Tapalke, semble dire le narrateur du moins. Donc ça c'est un point extrêmement intéressant, on a un cadrage, la fixation d'une source du savoir à travers ce type d'énoncé. Donc vous voyez que sa fonction était moins informative de localisation comme dans un fait divers, donner un lieu, on a dit il n'y a pas de date, il y a très peu de lieux. En fait, c'est même pas un lieu. Harunin ou Atapalke, c'est plutôt l'indication d'une source de savoir, plus qu'un lieu. C'est un lieu vague, hispanophone et un nom indien, qui dit simplement que dans ces lieux se raconte une certaine histoire. Donc en fait, on localise plutôt la source de l'histoire que le lieu de l'histoire, que le lieu des événements. Ça, c'est assez intéressant. Il y a un déplacement beaucoup plus vers la voie narrative et le point de vue que vers l'identification, encore une fois, informationnelle de ce que devrait être une chronique ou un fait divers. Bon, si avec ça, ça ne serait pas grand-chose, mais c'est tout le problème des médiatifs. Alors, si vous prenez tout le reste du texte, vous avez repéré sûrement, en 3B, par exemple, un indien aux yeux d'azur qui pouvait bien être leur fils. Il s'arrêta sur le seuil, peut-être parce que les autres s'arrêtèrent. Ce souvenir fut peut-être suivi par d'autres. Sans arrêt, la voie narrative modalise et marque son incertitude quant à la certitude des faits énoncés. Donc on a affaire à une histoire dont la vérité est faiblement portée par la voie narrative. Même chose avec le « comme si ». C'est une forme extrêmement intéressante de la médiation par la perception sensorielle. Il regarda la porte comme si il ne la comprenait pas. Et comme s'il ne la comprenait pas, c'est un énoncé en comme si qui ne dit pas qu'il ne comprend pas. Littéralement, il y a un non-savoir. Ce qui caractérise ce texte, c'est essentiellement ça. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est en contraste très fort par rapport au temps verbal utilisé. C'est le passé simple, le temps supposé des récits objectifs. Se présentant comme rapportant l'histoire telle qu'elle a été sans prise en charge énonciative. Et là, ce qui est rigolo, c'est que la prise en charge énonciative, la non-prise en charge du savoir, repose malgré tout sur cette narrativité au passé simple qui donne à ce texte une cohérence narrative particulière. Donc on a en fait un indice supplémentaire peut-être de distance, c'est-à-dire tout ce qui est raconté au passé simple, le passé simple donne peut-être plutôt l'information distance énonciative. Donc il y a double aspect de distance par les modalisations, je ne sais pas, ça j'en sais rien, c'est pas précis, selon, c'est peut-être. Et puis d'autre part, les passés simples qui mettent cette histoire à distance, elle est rapportée à partir de ce que ceux de Runin et de Tapalke disent, racontent au passé simple. Du coup, tout cela contraste fortement avec ce problème de traduction, sur lequel j'insistais tout à l'heure, c'est le yo, moi je voudrais savoir. Parce que alors là, par rapport à tout ça, à tous ces gens, à toute cette source d'histoire, il y en a un autre, il y a un jeu qui se situe et qui, lui, dans la dernière phrase, hein, phrase 12, va prendre une position particulière. Moi, je voudrais savoir quelque chose. Donc voilà, il y a tout ça que je ne sais pas, et puis je me fatigue pas pour tenter de l'inventer. Je ne sais pas, mais en revanche, ce que je voudrais savoir, c'est quelque chose de précis. Alors ce contraste-là est extraordinaire, en fait. On a l'impression que ça augmente la violence du contraste avec la volonté de savoir. Et du coup, la volonté de savoir porte sur quelque chose de très précis. Je voudrais savoir ce qu'il ressentit en cet instant de vertige où le passé et le présent se confondirent. Moi, je voudrais savoir si le fils perdu renaquit et mourut en cette extase, ou s'il parvint à reconnaître, ne fût-ce qu'à la manière d'un nouveau-né ou d'un chien, les parents et la maison. Il y a quelque chose de très précis qui intéresse le narrateur, la voix narrative, dans son positionnement final. Il recherche un savoir sur l'instant de vertige, sur l'extase, et on va devoir commenter ça, bien sûr, dans un petit moment. Alors, avant de le faire, on va passer par un autre petit problème extrêmement intéressant par rapport aux thèses de Ricoeur, qui est celui de...